Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Do you want to be a fighter?
RMC.
There's only one Tyson Fury.
Fighters Club.
I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody.
Nicolas Jamain.
I am the greatest.
Salut à tous, bienvenue sur le ring du RMC Fighter Club. Jonathan McCarthy est à mes côtés. Salut Joe.
Salut à tous.
Alex Herbinet, salut Alex.
Salut tout le monde.
Et notre consultant, bien sûr, Taylor Lapillus, membre du MMA Factory. Salut Taylor.
Salut Nico.
RMC Fighter Club numéro 61. C'est parti. Messieurs, c'est le grand retour de la légende. Nate Diaz is back dans la cage. Près de deux ans après sa défaite contre Jorge Masvidal, pour un choc en 5 rounds contre le Britannique Leon Edwards. Première historique en 5 rounds pour un combat sans titre en jeu qui n'est pas le main event de la soirée. UFC 263, bien sûr, en exclusivité en France sur RMC Sport. Et si également son grand frère Nick amorçait son retour, son grand retour, c'est ce qu'a annoncé Dana White. Alors, on va consacrer ce RMC Fighter Club numéro 61 à ces deux grands noms du MMA. Pourquoi les frères Diaz fascinent? C'est parti.
Introducing first, fighting out of Stockton, California, Nate Diaz.
If I had that much money, I'd be pampering myself the up. I'd be having pampering my left and right.
The two-time title holder and current Strikeforce World Welterweight Champion, Nick Diaz.
You're on steroids.
Sure I am. I'm just an animal. I'm just an animal.
Are those allegations or are you just trash talking?
Yeah, everybody's on steroids, bro.
What was it like being away, and what is it like to be back and get a nice victory like that over Anthony Pettis?
It's Nick Diaz's army, motherfuckers.
You just train hard. He says, go beat that motherfucker's ass. Don't be a bitch, you know?
There you go.
Magnifique production réalisée par notre ami Pierre Amiche. Nate Diaz, 36 ans. Nick Diaz, 37 ans. Que faut-il attendre de leur retour? Pourquoi les frères Diaz fascinent autant? C'est vrai les gars, Taylor, Joe et Alex, ils ont une fanbase incroyable alors qu'on parle de deux gars qui n'ont jamais été champions à l'UFC. Nate est tout de même la deuxième superstar de l'UFC derrière un certain Conor McGregor. Les chiffres ne manquent pas. Chaque pay-per-view Alex avec Nate s'approche ou dépasse 1 million de ventes.
Oui, et puis on avait vu quand il avait combattu donc Jorge Masvidal, son dernier combat au Madison Square Garden en début novembre 2019. Ils étaient face ce soir-là pour la ceinture BMF. Ils étaient ce soir-là face à Canelo Alvarez qui combattait contre Kovalev, la plus grande star de la boxe actuelle. Et ben, les Canelo et Golden Boy Promotion avaient décalé le combat de Canelo pour ne pas être face au combat de Nate Diaz contre Masvidal. Ça vous prouve ce que c'est. Et Nick, pour son dernier combat à l'UFC, sur un combat en 5 rounds sans enjeu contre un Anderson Silva qui était un peu vieillissant, qui n'était plus le Anderson Silva des plus belles années, et ben, ça vend quand même 800 000 pay-per-view. Et le champion de la catégorie des welter actuel, Kamaru Usman, il ne peut pas s'approcher de ce genre de chiffres, sauf s'il a Masvidal face à lui dans la cage. Donc on voit bien qu'ils ont un star power qui est presque unique pour des combattants qui n'ont jamais été champions.
Taylor, question que je te pose évidemment, très large, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi les frères Diaz?
Les frères Diaz, c'est des personnages, alors je les ai déjà vus en vrai pour le coup, ah. Et il y a une aura, ils ont un truc. Alors à l'époque, donc on pouvait, il n'y avait pas les restrictions Covid, etc. Donc déjà les mecs, ils viennent avant.
Est-ce qu'il y avait Cron Gracie avec eux?
C'est possible, je m'en souviens plus, mais c'est pas impossible. Mais les mecs viennent vraiment avant. C'est-à-dire que, en fait, tu les vois dans les couloirs, on dirait une bande. c'est ouf. Et donc, tu sais, ils ont une espèce d'image un peu de gangster, hein, avec de grandes guillemets, et de bad boy et de mauvais garçon, etc., qui cultivent pas mal. Et je pense que c'est ce qui plaît aux gens. C'est un peu le principe de l'anti-héros. On avait JSP qui était... la belle gueule, le gentil gars du Canada, etc. Et puis on avait Nick Diaz qui était tout l'inverse et tout l'opposé. Et donc bah, chacun avait un petit peu son héros. Donc tu avais le super héros et tu avais le super méchant. Et je pense qu'ils ont compris que malgré tout, ça. Alors je pense qu'ils sont comme ça naturellement, déjà pour commencer.
Ah oui, il n'y a pas de jeu avec eux. Hein.
voilà, il y a pas de jeu, mais je pense que malgré tout, ça s'est un peu intensifié quand ils ont vu que finalement, bah, être soi-même, ça marche bien.
Eh oui. coup... Et peut-être qu'ils ont même forcé un peu le trait, peut-être. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu aujourd'hui, Taylor, la conférence de presse d'avant-combat de Nate Diaz, avant son combat samedi soir, il est venu avec un énorme joint qu'il a fumé ouvertement en pleine conférence de presse devant les micros et les caméras. Alors, précision, Joe et Alex et Taylor, le cannabis est légal en Arizona.
Exactement. On est
donc il prend aucun risque, en fait. Hein, gentil voyou, là.
Le combat est à Glendale, en Arizona, et c'est, comme vous savez, aux États-Unis, ça marche par état, et là-bas, en effet, on peut se permettre ce genre de choses.
Très drôle, il en propose au petit Brendan Moreno à côté. Brendan Moreno le regarde et
il
non.
Il risque rien, mais pour l'image. C'est ouf, t'imagines le truc. Ah, mec, il sort son joint en conf.
Attends, enfin, et c'est sa marque, pour c'est sa marque, c'est de cannabis, Taylor.
C'est sa
plus.
Marque, exactement. Et c'est la marque.
Ouais, les gars, c'est quand
même. Donc il fait sa promo.
C'est inimaginable dans un autre sport, évidemment, en boxe, en foot, en tennis, en athlée, venir en conf avec un joint sur un meeting en Arizona. Ça, hein. Mais c'est un truc de fou.
Mais tu trouveras pas d'autres fighters qui fait ça, à part son frère. Mais tu trouveras pas d'autres fighters qui fait un truc comme ça.
Et Dana White, tu dis rien ?
Bah alors, je vais vous raconter. Rappelez-vous, je crois que c'était le premier Cormier-Miocic. Quand Cormier prend la ceinture à Miocic, c'était à Las Vegas. Il y a un gros plan, tu sais, entre deux combats sur Nate Diaz. Il regarde la caméra, deux doigts d'honneur, il sort un pétard, il allume en prime time sur un pay-per-view. Il a la capacité de faire ça, et surtout, il faut quand même préciser une chose, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais c'est que cette habitude qu'il a de fumer des joints, en fait, il a réussi à faire changer le règlement antidopage vis-à-vis du cannabis.
Oui,
on racontera ça après, mais c'est Nate Diaz et son frère qui ont fait changer la réglementation.
Et t'as raison, on va en parler dans la fin de ce RMC Fighter Club avec toi, Alex. Alors commençons par l'homme dans l'actualité, Nate Diaz, bien sûr. Rapide résumé quand même de sa carrière, Alex.
Eh ben, Nate Diaz, c'est 20 victoires, 12 défaites en carrière, donc 15-10 à l'UFC. Il a 25 combats à l'UFC, hein, donc c'est un énorme parcours à l'UFC. Il commence les arts martiaux à 11 ans avec le grand frère, avec Nick, et puis commence à sa carrière pro en octobre 2004. Donc il va passer par le WEC, hein, on se souvient, les plus anciens du MMA se souviennent bien. WEC, Strike Force, puis l'organisation Pancras. Au WEC, il combattra d'ailleurs pour la ceinture des légers et il sera battu par Hermès Franca. C'était le dernier événement du WEC avant d'être acheté par Zuffa, la maison mère de l'UFC. Donc il rentre à l'UFC via l'émission de Ultimate Fighter, l'émission de télé-réalité en 2005. Il participe à la 5e saison et il remporte le tournoi. Il fait des masterclass de soumission d'ailleurs dans tous les rounds avant la finale. Donc il remporte ce contrat à l'UFC et puis commence sa vraie carrière à l'UFC qui va être alternée de haut et de bas. C'est-à-dire qu'il commence par 4 victoires de suite, mais plus jamais dans sa carrière il refera 4 victoires de suite. Il en fera 3 au mieux par la suite. Mais il n'aura jamais plus de 2 défaites de suite. Donc c'est vraiment, il fait un peu les roulettes russes des résultats. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est où elle est bas. Ça le mène quand même à un combat pour le titre contre Benson Anderson en 2012 pour le titre des légers. C'est l'année aussi où il devient ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien sous César Grassi. Et il perd sèchement ce combat pour le titre. Décision unanime, il n'y a pas photo, il a été battu. À l'époque, il est quand même plus connu, John en parlait quand il préparait, comme le petit frère d'eux finalement, celui qui fait des doigts d'honneur quand il fait ses triangles et qui est très vulgaire en conférence de presse. Et puis ça va changer petit à petit. En 2014, il y a un gros clash, une bisbille contractuel avec l'UFC qui le retire des classements parce qu'ils sont en froid et voilà, il y a une gros bisbille contractuel, comme je disais. Et c'est là que Dana White va sortir la phrase qui restera célèbre vu ce qu'est devenu Nate Diaz, c'est « Nate is not a needle mover », c'est-à-dire qu'en américain, il bouge pas les aiguilles, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui peut faire vendre des pay-per-view. 2-3 années plus tard, il va ravaler un peu ses paroles, Dana White, pour le coup. Donc il a un an d'inactivité, il revient contre Rafael Dos Anjos fin en décembre 2014. Il est tout sauf motivé, il arrive 5 pentes au-dessus de la... Il s'en fout du poids, quoi, volontairement. Voilà, il coupe pas volontairement. Même pendant le combat, on sent bien qu'il est pas motivé. Il est battu logiquement et vraiment très logiquement. Encore une année d'inactivité, puis on arrive en décembre 2015 et c'est sans doute la soirée qui va changer beaucoup de choses pour Nate Diaz. Il affronte Michael Johnson. Il nous fait une décision unanime avec une masterclass de boxe. Et puis après, au micro de Joe Rogan. Joe Rogan arrive et lui demande « Comment ça s'est passé ce combat contre un Michael Johnson expérimenté ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat ?» Et là, on entend une des plus célèbres interviews post-fight de l'histoire du MMA.
« Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for, I'm gonna fight your ass. You know what's the real fight, what's the real money fight, it's me, not these clowns that you already punked at the press conference. Don't no one want to see that, you know you beat them already. That's the easy fight. You want that real right here. Hey, and I'm not...
Unfortunately, we can't talk like that on Fox.
C'est dingue, il y a plus de bips que de mots audibles, en
exactement.
Fait.
Exactement. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, il répond pas du tout à la question et il provoque Conor McGregor, qui est devenu la semaine d'avant champion des plumes en battant José Aldo en 13 secondes, qui est la nouvelle superstar de l'UFC. Et il lui dit, t'as pas besoin de combattre tous les autres, le vrai money fight, le vrai fight qui rapporte, c'est moi. Et quelques mois plus tard, alors que Conor McGregor doit affronter Rafael Dos Anjos, Rafael Dos Anjos se blesse, il n'y a pas d'adversaire, et donc l'UFC trouve un dernière minute, Ned Diaz, pour aller affronter Conor McGregor, pas dans la catégorie des plumes d'ailleurs. Et puis là, ça change tout une nouvelle fois, parce qu'en mars 2016, eh ben, devant le Conor qui est à ce moment-là, qui roule, qui marche sur l'eau, c'est le Conor qu'on pense imbattable, eh ben, il bat Conor McGregor, soumission, il le soumet au deuxième round. Il y a presque, on voit le switch pendant le deuxième round, on voit Conor qui perd toute son essence, quoi. Et Ned Diaz lui met une magnifique, enfin voilà, c'est une démonstration, il l'amène au sol, il lui met le petit coup de poing qu'il faut pour passer la garde et pouvoir mettre sa soumission. C'est une masterclass. Quelques mois plus tard, en août, la revanche, cette fois perdue, même s'il fait un super combat et que pendant longtemps on croit qu'il va pouvoir le gagner, mais Conor se réveille bien en fin de combat et finit par l'emporter. Il va revenir 3 ans plus tard. Là, il y a 3 ans d'inactivité parce qu'il a plus besoin de combattre. En fait, il est richissime après les deux pay-per-view contre Conor, qui à l'époque étaient les deux plus grosses ventes de pay-per-view de l'UFC. Ça a depuis été battu par McGregor contre Khabib, mais donc il a plus besoin de combattre. Donc 3 ans sans combattre, il revient contre Anthony Pettis, l'ancien champion des légers, pour une victoire sur décision unanime en août 2019. Et 4 mois plus tard, même en novembre 2019, donc il affronte Jorge Masvidal pour la ceinture de Baddest Motherfucker au Madison Square Garden, et il est battu par arrêt médical, en fait. Après le troisième round, il est trop ouvert et le médecin décide d'arrêter ce combat-là. Et donc voilà, maintenant on le retrouve presque 2 ans plus tard pour son retour contre Leon Edwards, qui devait affronter en mai, puis il a une petite blessure, donc on se retrouve avec ce combat au mois de juin.
Parcours chaotique dans la cage, Taylor, est-ce que tu, je te pose la question, avec une autre discipline, un autre comportement, il aurait pu être un des plus grands ou pas?
Je pense pas. Je pense qu'avec un autre comportement, ça aurait été juste un combattant lambda et standard. C'est-à-dire que malgré tout, c'est quelqu'un de talentueux, mais c'est pas un grand champion. C'est-à-dire que il n'a pas les capacités d'être un grand champion qui va régner pendant longtemps. Donc en fait, si tu veux, sans tout ça, si tu lui retires tout ça, ça devient juste un combattant comme les autres. Et là, avec ça, bah, c'est Ned Diaz et tout le monde aime Ned Diaz. Et là où j'ai rebondi sur ce que disait Alex tout à l'heure, c'est qu'il y a quelques temps, c'était quand même Nick qui était en avant et lui, il était un peu le petit frère d'eux. Et aujourd'hui, c'est plus Nick qui est le grand frère d'eux.
Totalement.
C'est un petit peu inversé la tendance. C'est-à-dire que dorénavant, le mec qui est bankable, c'est Nate. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout ce qu'il y avait autour de lui. Il y a quand même ce gros boulevard qu'il a pris grâce à Conor McGregor, qui l'a vraiment fait exploser. C'est-à-dire que là, bah, il a pu montrer en fait son côté bad boy à tout le monde. C'est-à-dire que jusque-là, c'était quand même une petite communauté de personnes qui suivaient le MMA, etc. Mais le grand public, au sens large, ne le connaissait pas forcément. Et en fait, grâce à ce combat-là, il a pu éclater aux yeux de centaines de milliers de foyers d'Américains qui l'ont vu et qui ont apprécié. Donc là, sa fanbase, elle a juste explosé. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec Jorge Masvidal, qui a explosé sur le titre BMF, qui avait déjà explosé avec le KO qu'il mettait
à Askren avec le genou sauté. Ouais.
Mais il explose vraiment quand il combat Ned Diaz. Donc Ned Diaz, finalement, contribue à la hype de Jorge Masvidal.
Ouais. Et Taylor, c'est ce qu'il faut rajouter aussi sur cette victoire contre Conor, c'est que ce soir-là aussi, il fait une autre interview post-fight qui est assez mythique, puisqu'il est complètement en sang.
Hey,
et que quand
Joe Rogan
lui demande ce qu'il pense, voilà, ouais. Il dit I'm not surprised, mother, beep. Je ne suis pas surpris, bande de beep.
Et donc voilà,
c'est quelque chose qui a aussi marqué les esprits ce soir-là.
Voilà pour le petit frère, Nate, le grand frère, Nick. Présentation par Jonathan McCarthy.
Eh ben écoute, déjà, je vais déjà prévenir tout le monde. Je risque de ne pas être très objectif parce que c'est mon combattant favori. C'est lui qui m'a donné envie de faire du MMA, de faire du sol en plus particulier. Je fais partie du culte Nick Diaz.
Donc c'est à cause de lui que tu me poursuis dans les couloirs pour porter MMA. D'accord.
Bon, alors.
En plus, il a ton âge, donc ça colle quoi.
Non, il est plus âgé.
83, ouais, 84,
non,
85. 85,
t'es
un petit.
Je suis un petit. Donc, il faut se rappeler, en fait, parce que les gens qui ne le connaissent pas, c'est de voir un jeune gamin de 20 ans qui débute à l'UFC en 2003 avec une série de combats mythiques.
notamment contre Robbie Lawler. Les deux ont des cheveux. Nick Diaz a cette espèce de touffe incroyable frisée qu'on a oublié qu'il l'avait. Et surtout Robbie Lawler qu'on a toujours connu chauve lors de ses grandes heures avec des cheveux. Un combat totalement qui symbolise totalement la carrière de Nick Diaz, c'est-à-dire qu'il rentre dans la cage en hurlant Stockton motherfucker, Stockton, en insultant Robbie Lawler sur et toute sa famille
pendant tout le combat.
Pendant tout le combat.
Juste une question, ils sont comme ça dans la vie ces mecs-là aussi? Ils parlent comme ça dans la rue aux gens ou c'est juste pour le show?
Alors tu vas voir.
Vous avez entendu parler de l'histoire de Nick Diaz à qui on a volé son vélo ou pas?
Oui.
tu la racontes.
Raconte-la maintenant.
Non, mais il se fait voler son vélo à Stockton et qu'ensuite après il met un message sur le net pour dire qu'il va retrouver le mec, qu'il va lui faire je sais pas quoi, que enfin c'est ce mec qui est juste ouf quoi. C'est ça ce qu'il vous montre dans la cage.
Ils sont comme ça dans la vraie vie.
Ils sont comme ça dans la vraie vie. Donc ce que je veux dire c'est que ils sont eux-mêmes. C'est pas difficile.
Il y a rien de faux avec eux. Mais donc voilà, il commence à l'UFC très jeune, à 20 ans. Il enchaîne victoire, défaite. C'est un petit peu irrégulier au bout d'un moment. Et puis, il décide en 2006 de quitter l'UFC pour évidemment rejoindre ce projet qui, à l'époque, faisait saliver tout le monde, qui était le Gracie Fighting Championship. C'était la famille Gracie qui voulait faire une autre organisation à côté de l'UFC. Malheureusement, le projet ne tient pas. Le projet n'aboutit pas pour des raisons financières. Et du coup, en fait, Nick va un peu combattre à droite, à gauche. Et il y a surtout ce moment qui reste mythique, qui est à mon sens un des plus beaux combats de l'histoire du MMA et surtout qui est la plus belle soumission à mon sens de l'histoire du MMA. C'est quand il décide d'affronter Takanori Gomi au Pride, le Pride qui se délocalise pour la première fois aux États-Unis, Pride 33, on est en 2006 et là il lui met une gogo plata. Pour les gens qui pratiquent le sol, vous comprendrez ce que c'est, mais c'est une soumission qui est très très rare qu'on a. Voilà, c'est pas un triangle, c'est pas une guillotine, c'est pas une clé de bras, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en MMA habituellement. C'est une soumission qui est ultra technique et ça reste dans les annales parce que à l'époque Takanori Gomi est un combattant qui est considéré comme le meilleur combattant des poids légers au monde. Même s'il n'est pas à l'UFC, tout le monde fantasme de voir Gomi venir aux États-Unis et casser la tête à tout le monde. Et il y a ce petit jeune Nick Diaz qui a même pas 25 ans qui le ridiculise parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui le ridiculise en dehors, et à partir de là la carrière de Nick explose. Alors il va combattre
d'ailleurs John, on va écouter le son de cette victoire mythique de Nick Diaz.
You know what, line up that left overhand, that left hook, he can't see it coming. Nice double.
That's what Tommy wanted.
Oh stop, great to give a block. Did you see how flexible Nick Diaz is? He's got going in a whole world of trouble right here. He can finish him right
now. He's
got it. Diaz locked that leg over, locked him in, it was snap shut, and that fight was over.
Donc vous n'avez pas tout compris, on n'a pas traduit tout le commentaire, mais les unbelievable, les incroyables qui lancent, vous comprenez que cette soumission, elle est même pour des commentateurs de MMA, ils sont juste sur les fesses de voir ça quoi.
En fait,
et il y a une petite anecdote géniale sur ce que va devenir le résultat de ce combat, John. Je voulais absolument que tu nous la racontes celle-là.
En fait, au final, contrôle antidopage d'après combat, et puis Nick Diaz, comme d'habitude, est contrôlé avec un taux de THC, donc la substance active du cannabis, un taux de THC de 175, soit trois fois la norme autorisée. Le docteur en charge le docteur de la commission antidoping à l'époque déclarera qu'il comprend pas comment Nick a pu combattre ce soir-là parce qu'il avait fumé l'équivalent d'un camion de marijuana. Donc ça contribuera à sa légende. Du coup, c'est là un peu que le culte envers les Diaz naît. Les gens disent attendez, il est même défoncé, il est capable de ridiculiser des combattants d'élite. Et c'est à partir de là que vraiment Nick devient une superstar. Parce que s'ensuit donc du coup une signature au Strikeforce, qui était l'organisation numéro 2 à l'époque, et qui était vraiment une vraie concurrente de l'UFC. Pour l'anecdote, Dana White décidera de racheter le Strikeforce, se rendant compte que le niveau du Strikeforce était quand même très élevé. Et son run au Strikeforce, chez les poids welter, est extraordinaire. Il prend la ceinture en démolissant que des grands noms. Je vous parle de Shamrocks, de Nunes, de Cyborg, de Paul Daly, dans ce qui est probablement le plus grand combat en round de l'histoire du MMA. Contre Cyborg, il y a aussi... 2-3 anecdotes assez marrantes. Donc vous connaissez tous Chris Cyborg, la combattante féminine qui se fait appeler Cyborg parce qu'à l'époque elle était mariée avec le combattant masculin qui s'appelle Cyborg, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, combattant dont tout le monde avait peur. Nick le soumet en deux rounds par clé de bras, et puis le premier truc qu'il va faire c'est il grimpe sur la cage, il fait deux doigts d'honneur à Chris Cyborg qui est dans le public, et il lui dit 2-3 obscénités. Donc voilà, ça, on continue dans la légende du mauvais garçon mais qui assume dans la cage et qui détruit tout le monde. Et alors après ce run là face à la demande populaire, à l'époque chez les Powelter, il y a quand même un mec qui s'appelle Georges Saint-Pierre qui roule sur tout le monde. Il faut bien le trouver des adversaires.
Il y a tout le monde qui veut voir Georges Saint-Pierre face à Nick Diaz.
Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième passage donc, à l'UFC pour Nick?
Alors, il faut déjà raconter sa signature. Sa signature, c'est qu'après son dernier combat au Strikeforce, il dit qu'en gros, voilà, il écoute le podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, dans son podcast qui à l'époque était déjà bien populaire, dit « Bah oui, mais moi je pense vraiment que Nick peut battre Georges Saint-Pierre ». Ça émoustille un petit peu tout le monde. Dana White, qui est l'ami de Joe Rogan, décide donc de faire signer Nick. Et là, ce qui va se passer, c'est quand même, c'est typique de la carrière de Nick Diaz. Il y a le combat contre GSP qui est prévu, mais Nick Diaz décide de ne pas aller aux conférences de presse. Il décide que voilà, il a autre chose à faire, comme aller se rouler 2-3 pétards, et qu'il n'a pas envie d'aller en conférence de presse. Dana White foudra, je dis « Bah plus jamais Nick va combattre pour la ceinture, le combat est annulé ». Finalement, Dana White se rend compte que Nick Diaz, bah, ça représente potentiellement des ventes de pay-per-view. Il lui fait affronter une autre légende qui est BJ Penn. Et jamais, jamais j'ai vu BJ Penn prendre une telle rousse, une rousse mais vraiment monumentale. Ça me fait même de la peine parce que je pense que tous les amateurs de MMA adorent BJ Penn. Et là, ce qu'il lui met, mais c'est dramatique. Et puis voilà, au final, Dana White accepte de faire combattre Nick pour la ceinture face à GSP. Malheureusement, GSP se blesse. Il y a une ceinture intérim qui est mise en jeu entre Carlos Condit et Nick Diaz. Alors, le Nick Diaz perd le combat 3 rounds à 2 face à Carlos Condit, mais c'est pas une victoire nette de Condit. La majorité des fans de Diaz se ruent sur les réseaux sociaux en disant « Mais non, Nick a gagné !» Et même à l'heure actuelle, le résultat fait débat. Et puis finalement, on a le combat contre Georges Saint-Pierre qui arrive. Et alors là, la construction et la narration du combat est extraordinaire. Nick Diaz insulte Georges Saint-Pierre comme jamais personne n'avait osé insulter GSP. GSP qui est quand même voilà, le gendre idéal, le bon garçon, la personne qui ne dit jamais de gros mots. Nick Diaz se déchaîne sur lui. Bon, ça se termine quand même par une victoire de GSP en 5 rounds. GSP, voilà, il n'y a pas de débat. GSP annule Nick Diaz sur ce combat-là.
Pour te compléter, GSP pète même des plombs. Il l'insulte même dans certaines confs. Alors qu'il est très beau garçon, ouais, à un moment, il craque.
Il craque. Arrive à le faire craquer. Mais GSP, finalement, conserve sa ceinture. Honnêtement, il n'y a pas de combat. Il gagne en 5 rounds. Et puis voilà, combat de retour 2 ans plus tard contre Anderson Silva. Et la dernière anecdote qui est très significative de la carrière de Nick, c'est-à-dire que Nick, en fait, il fait le show pendant le combat, mais il perd. Et puis au final, après le combat, contre l'anti dopage, on se rend compte qu'Anderson Silva a avalé une pharmacie. Il dit que non, il a pris un Viagra, mais non, il a vraiment avalé une pharmacie, des trucs de bodybuilder. Et puis Nick Diaz lui est contrôlé parce qu'il a encore trop fumé de cannabis. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Anderson Silva, pour avoir avalé la pharmacie, est suspendu une année, et Nick Diaz, lui, est suspendu 5 ans.
5 ans.
Levé de bouclier du monde du MMA, au final, la suspension est réduite à 24 ou 48 mois, je ne sais plus, et les règles, à partir de là, sont changées. Donc vous vous rendez compte que Nick Diaz a fait changer les règles de seuil de tolérance de cannabis.
Et donc pour vous compléter, Nick Diaz donc, a plus combattu depuis 2015, il est en gros pour parler, pour revenir, Dana White l'a annoncé. Il a annoncé que sans doute Nick combattrait cette année à l'UFC. Donc un retour de Nick Diaz, ça fait juste fantasmer tous les amateurs.
Ce sera un événement évident. Voilà pour les personnalités et le parcours de ces deux hommes. Parlons maintenant des combattants purs. Qu'est-ce qu'ils valent réellement? Tu as commencé à répondre à cette question en parlant de Nate tout à l'heure, Taylor. Déjà, lequel est le plus complet selon toi, le plus pur techniquement entre Nick et Nate?
Ils sont assez similaires hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que ces deux combattants assez longilignes, avec des longs segments, avec des très gros cardio, des grosses endurances musculaires, très bon au sol, très bon striker. Pff, franchement, les gars, aidez-moi, quoi, mais John et Alex, mais franchement, je leur trouve pas de sensible différence. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, leurs styles sont assez semblables.
Il faut ajouter que Nick et Nate font des triathlons pour se marrer. Quand ils sont en temps libre, qu'ils se reposent, ils font des triathlons. Donc, ils ont un cardio qui est
le cardio est à la hauteur. Ouais,
ouais. Bah, moi, incroyable. En fait, je suis d'accord avec toi, incroyable. Taylor, mais je vais juste ajouter une chose, c'est que oui, avec tout ce que tu as dit, sauf que je trouve que Nick fait tout mieux que Nate. Nick a son apogée. Nick Diaz du Strikeforce, c'est exactement ça, c'est une très belle boxe, c'est un jiu-jitsu brésilien d'une vraie ceinture noire donnée par la famille Grassi, mais il fait tout quand même mieux que Nate.
C'est aussi des mâchoires, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui prennent pas des KO facilement, c'est des gros mentons qui résistent. Et puis il y a un truc qui n'est pas dans la technique de combat, mais qui a joué dans leur mystique, dans leur aura, c'est que c'est des gens qui saignent beaucoup, qui ont, au niveau du front notamment, qui s'ouvrent très vite.
L'arcade droite,
et donc, l'un comme l'autre.
Ouais. Et donc ils combattent très souvent avec des têtes en sang, et ce qui dans ce
ajoute à leur spectacle.
Exactement, dans ce milieu-là, ça rajoute un peu une mystique, une aura, ce côté un peu bagarre, quoi, ce côté guerre vraiment qu'ils sont capables de faire.
D'ailleurs, Nick est passé sur le billard pour se faire retendre la peau et enlever des tissus pour justement être moins sensible aux coupures. Et c'est ce qu'on a vu dans le combat contre Masvidal de Nate Diaz, cette coupure-là, il l'a en 10 fois plus grande contre Connor. C'est une coupure qui est, voilà, tu sais que tu le touches, tu lui mets une gifle, ça va se couvrir.
Et en parlant pour rebondir sur le mot gifle, une des particularités aussi, parce que ça fait partie de leur légende,
c'est qu'ils
ont,
là.
Voilà, ils ont presque, ils n'ont pas inventé, en tout cas ils ont inventé l'expression, c'est la Stockton Slap, c'est-à-dire la gifle de Stockton, c'est-à-dire qu'ils mettent des gifles aux adversaires dans la cage. On parle pas de coup de poing là, ils ouvrent la main et ils leur mettent des gifles et ils disent c'est la Stockton, c'est tu viens de prendre une gifle de Stockton, bah, de leur quartier quoi.
Taylor.
Il y a un côté bagarreur de rue, mais dans une cage, voilà, hyper humiliant.
Il faut être quand même précis techniquement, ils donnent donc c'est du bras avant,
bah, tu sais
ils sont gauchers, c'est de la droite
et
c'est très dur.
C'est compliqué.
C'est très
c'est compliqué.
Taylor, vas-y.
Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment. Alors, moi j'ai déjà essayé et franchement, c'est-à-dire que. Alors ça dépend après du niveau du mec que t'as en face, mais le faire. Au niveau auquel ils le font, c'est hyper compliqué. Donc, c'est mettre une gifle à un mec comme ça, genre quand il se met à gifler Connor dans le combat,
ah ouais,
franchement,
ouais.
C'est hyper difficile.
Et tu t'entendais dire ça, Taylor, mais c'est humiliant. T'en as jamais pris toi, mais quand t'es un combattant, si tu prends ça pendant un combat,
c'est hyper humiliant en fait. C'est-à-dire qu'en plus, Nate te gifle. Et il se moque de toi.
Ouais.
Prendre une gifle, non, ouais, c'est humiliant.
Il gifle. Et il rigole, pendant le combat. Donc,
il te pointe du doigt et te fait un bras d'honneur.
Voilà, il te pointe du doigt et il rigole et il dit « je viens de te gifler ». Tu vois. Donc,
ce qui c'est fait intéressant. Que ça. Vas-y,
il faut avoir un sang-froid extraordinaire pour ne pas sortir, pour rester concentré. Il faut avoir un sang-froid extraordinaire. Et Connor lui-même sort. C'est-à-dire que Connor, il n'arrive pas à rester concentré dans le truc, il sort.
Ouais,
c'est ça, Taylor. Vous préférez, vous, les combattants, vous prendre un bon parpaing dans la tête qu'une gifle, quoi.
Mais bien sûr.
Bah, une gifle, c'est hyper humiliant, quoi. Je veux dire, tu préfères prendre un coup de poing que tu te fais claquer et le mec te dit tu vois
je me suis fait gifler même le dire je me suis fait gifler c'est pas beau
voilà,
on posera la question à notre président quand il sera invité du RMC Fighter Club Emmanuel Macron pour lui poser la question.
Moi il y a un truc sur lequel je voulais revenir avec toi Alex également, on parle beaucoup de Stockton leur ville, ils sont hyper attachés à leurs origines et à leur localité.
Ouais, c'est en Californie Stockton et ils sont hyper attachés au point que j'avais lu que Nick disait même aller à Los Angeles ça le dérangeait un peu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment je veux être à Stockton, quoi.
C'est une déchetterie, Stockton.
On est vraiment dans un vrai ghetto, mais il y a cet attachement et qui participe.
Si nous écoutent les habitants de Stockton, ils vont pas apprécier. Mais bon.
Non, tout à fait. Il ne doit pas y en avoir
Diaz, beaucoup. Les Diaz le premier le disent. C'est mal famé, tu peux pas laisser ton vélo dehors parce que sinon tu te le fais voler, tu es obligé de mettre des messages sur les réseaux sociaux. Nick raconte que ça va te plaire. Il racontait quand il était gamin, il marchait sur des seringues de junkie. Mm-hmm. C'est un vrai ghetto.
Ouais, tout à fait. Et puis ça participe de leur mystique, c'est-à-dire ça participe même du storytelling qu'on peut vendre dans un combat. Il y a les gifles, il y a les Stockton slap. Et il y a même quand Nate affronte George Masvidal pour la ceinture BMF, ils le vendent comme un combat Miami contre Stockton, Californie, côte ouest, le gangster de l'Est contre le gangster de l'Ouest. On arrive même, leur attachement à leur ville est devenu un élément de storytelling dans leur combat.
Et je pense que vous demandez à n'importe quel fan de MMA quel est le code postal de Stockton, tous les amateurs sont capables de le dire, c'est 209.
209. Et c'était 209 contre le 305 contre Masvidal.
Et c'est aussi deux bons gros bobos, hein, comme on dit en France. Hein. Ils sont très véganes, c'est des véguis les deux, Joe.
Bah, ce qui est formidable, et moi je pense que ça fait partie des choses qui font qui sont si populaires, c'est que je pense que ça a été les premiers combattants à promouvoir un style de vie entier. Pas juste le combat, mais vraiment tout un mode de vie. Ils sont véganes,
ouais,
ils font hyper attention à ce qu'ils mangent. Nate Diaz racontait qu'il comprenait pas les combattants qui mangeaient pas des légumes bio. Voilà, il expliquait donc que c'était des petites bip 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 parce qu'ils mangeaient pas bio. Ils fument beaucoup de cannabis, mais c'est aussi eux qui ont lancé la mode autour du CBD dans le milieu des combattants.
Ils ont aussi lancé une compagnie de CBD. Hein,
on va rappeler ce qui s'est passé. Après le deuxième combat contre Conor McGregor, Nate Diaz se présente en conférence de presse avec un stylo vapoteur de CBD. Tout le monde lui demande, Nate, est-ce que c'est du cannabis ? Il dit non, c'est du CBD.
Le CBD, c'est du cannabis sans THC.
Sans THC. C'est légal même en France. Il dit non, c'est du ça. CBD, ça aide à la récupération. Trois mois après, l'UFC signe un énorme contrat de sponsoring avec la plus grosse marque de CBD aux États-Unis. Et Nate dira d'ailleurs, l'UFC aurait dû me donner un pourcentage. Mais voilà, c'est vraiment cette promotion d'un style de vie global, c'est-à-dire manger sain, faire beaucoup de cardio, faire du triathlon, penser à sa récupération, prend des bains d'eau glacée. C'est vraiment les premiers combattants qui ont vendu ce mode de vie global.
Tu peux rajouter donc fumer de la marijuana parce que ça vient en complément de tout ça.
Et faire des nunchaku pendant que t'es en conférence call pour promouvoir ton combat contre
DSP. Alors attention, précision Taylor, Joe et Alex, hein, nous ne faisons pas la promotion du cannabis. C'est forcément c'est proscrit, c'est illégal et en plus il faut vraiment vraiment éviter ce quand vous prenez le volant. Là on parle de bad boys mais qui sont sympathiques, c'est ça qui est fou quand je vous écoute parler les gars. On n'est pas sur de la violence conjugale, on n'est pas sur sur des bad boys, des mecs de rue qui s'amusent avec leurs origines, leur héritage et leur sport, c'est ça qui est intéressant.
Exactement, et en fait je pense que tu as bien résumé le truc, c'est-à-dire qu'ils sont tout ça à fabriquer des gentils méchants, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont ce côté méchant et bad boy, mais on en vient à aimer ce méchant-là. On en vient à vouloir le voir.
Tu sais qui le résume le mieux ? C'est Connor qui résume le mieux. Dans la conférence de presse du premier combat, qui était à l'UFC Center, vous vous rappelez, devant l'octogone, il dit « Ouais, mais Nate, avec ta main gauche, tu fais des signes de gang mexicain, et avec ta main droite, t'es en train de gonfler des ballons en les transformant en animaux pour les donner aux enfants. »
Ah, mais c'est bien ça. On a réussi. Voilà, cette mystique qui a été créée autour d'eux a permis de devenir les gentils méchants.
Ouais. Et aussi le fait qu'ils soient frères, c'est les frères Diaz. Ça contribue, ouais, je pense, à leur popularité, Taylor.
Il y a aussi le principe des Diaz Brothers. Alors, les frères, ça marche toujours, hein, de toute manière, globalement.
Ah, tu sais de quoi, aussi, tu sais de quoi on parle, hein.
Ouais, je sais de quoi je parle.
On big up à Damien, d'ailleurs.
Merci, les gars. Donc, mais. Vraiment le principe des deux frères qui sont, et puis les deux sont talentueux, donc les deux ont un truc à vendre, donc forcément bah c'est un vecteur de communication en plus, et ça fonctionne. Et l'UFC qui a eu, parce qu'ils ont eu des gros problèmes, hein, avec les frères Diaz, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Dana White parle de faire revenir Nick, il est très content d'avoir Nate à chaque fois sur un pay-per-view, mais ils ont eu des gros problèmes parce que quand t'as des mecs comme ça dans ton roster, c'est compliqué à gérer. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous amuse et on rigole de ça et on kiffe ça parce que c'est le spectacle, parce que c'est le show. Mais quand tu organises le show et que tu as un mec qui décide juste de pas venir, c'est compliqué à gérer et c'est compliqué de gérer ce genre de personnes. Donc aujourd'hui, ils ont réussi malgré tout, même avec des comportements très limites de temps en temps, à être extrêmement aimé du public.
Il y a une chose
qui
est très drôle, c'est que tu te rappelles, Taylor, donc, de la dispute entre Dana White qui disait Nate ne fait pas bouger l'aiguille, Nate, moi j'en ai plus rien à faire de Nate. Et on va juste. Donc, Dana White méprisait Nate Diaz. Et quelques années plus tard, au moment de négocier la revanche entre Connor et Nate, qu'est-ce qu'il fait, Dana White ? Il prend son chauffeur, il se fait déposer à Stockton, et pour sceller le contrat, il autorise Nate à lui mettre une Stockton Slap filmée, mise sur les réseaux sociaux. Donc on est passé du boss qui disait non, mais je suis limite en train à vouloir virer mon employé, à écoute, je vais me laisser gifler par mon employé.
Il y a aussi, on dresse un portrait très sympathique des frères Diaz, bien sûr, mais dans la cage, magnifique, en interview, super, mais hors de la cage aussi, quelques débordements à signaler quand même.
On est sur des. C'est-à-dire que, comme disait Taylor, ils sont eux-mêmes, sauf que eux-mêmes, des fois, ça peut déborder un minimum du cadre. Il y a deux, trois petites anecdotes qui sont marrantes là-dessus. L'événement, notamment à Nashville, en avril 2010, événement Strike Force à Nashville. Après le main event, c'est la victoire de Jake Shields sur Dan Anderson pour conserver la ceinture des moyens de Strike Force. Et Jim Miller rentre dans la cage et interrompt l'interview de Shields pour lui demander sa revanche contre Jake Shields. Sauf qu'ils ne sont pas du tout contents dans le coin de Jake Shields où il y a les deux frères Diaz. Et Nick va mettre un premier coup de poing. C'est-à-dire au départ, ça repousse un peu Miller. Puis Nick met le premier coup de poing. Et là, ça part en bagarre générale avec les deux frères qui maintiennent Jim Miller au sol, qui lui mettent des coups. Enfin voilà, ça part en bagarre générale. Un peu comme on avait eu avec Connor et Khabib, si tu te souviens, Nico.
Après le combat. En pire,
exactement. En bien pire. C'est un événement d'ailleurs qui a fait du mal au MMA à cette époque-là, puisque CBS a arrêté son contrat. CBS, la chaîne américaine, avait arrêté son contrat avec Strike Force à l'époque et qu'il a fallu attendre novembre 2011 et l'UFC sur Fox pour revoir le MMA sur une chaîne normale, pas une chaîne du câble payante aux États-Unis.
Quand les frères Diaz se font sortir de la salle, ils sortent de la salle en regardant la caméra et en faisant le double doigt d'honneur.
Exactement. Et il y a aussi, mais celle-là, c'est quelques années avant, mais février 2006, UFC 57, le combat de Nick Diaz contre Joe Riggs. Donc Nick Diaz est battu sur décision unanime par Joe Riggs après trois rounds, mais les deux partent à l'hôpital. Joe Riggs a mal aux mains, il a des problèmes aux mains après le combat. Je ne sais plus ce qu'a exactement Diaz, mais ils doivent tous les deux partir à l'hôpital. Et avant de monter dans l'ambulance, on demande à Riggs si ça va. Et il dit mes mains sont touchées, donc j'aurais pu faire mieux si j'avais pas eu ça. Et là, Diaz lui dit viens, on fait un quatrième round. Là, les deux ambulances partent, ils arrivent à l'hôpital. Et quand ils arrivent à l'hôpital, Joe Riggs, il est sur son brancard. Nick Diaz pète un plomb, commence à l'insulter à droite, à gauche, à lui dire viens, on se bat ici maintenant. Ils arrivent à les séparer en les mettant dans des chambres un peu à part. Sauf que Joe Riggs, à un moment, il se balade avec son intraveineuse en plus, il se balade dans l'hôpital et il passe devant la chambre de Nick Diaz. Et quand il se retourne pour repartir, il entend les pas de Nick derrière lui. Et Nick Diaz juste vient lui mettre un énorme coup de poing et lui arracher une dent. D'ailleurs, il y a une dent qui part. Ils sont dans l'hôpital. Incroyable. Ils commencent à se battre. L'infirmière arrive. Nick Diaz raconte. Elle criait comme une alarme. Elle dit arrêtez. Là, Joe Riggs, à un moment, ils finissent dans un placard à balai où Nick Diaz commence à taper Joe Riggs qui essaie de se défendre avec son coude parce qu'il a mal aux mains. Et quand il voit Nate Diaz, donc le frère qui est aussi à l'hôpital, Joe Riggs, il essaye de l'interpeller pour lui dire viens nous séparer. séparer, quoi, viens faire quelque chose. Sauf qu'au lieu de séparer, Nate Diaz, bah, il en remet une. Il remet un coup à Joe Henry. Et ils finissent à 2-1 dans l'hôpital avec l'alarme qui est obligée d'être déclenchée par les gens de l'hôpital pour qu'ils arrêtent. Bah, voilà, ils sont entiers dans les bons comme les mauvais côtés.
Alors, si on vous a pas
donné... C'est digne d'un film.
C'est digne d'un film. Quand j'écoute Alex me raconter ça, je me dis c'est une légende, c'est pas arrivé vraiment ça. Et pourtant,
non,
si c'est...
ces mecs-là, ils pourraient être dans un film de Guerrici.
Et contre Rabib, il faut se rappeler aussi, parce que c'est pas là, c'est 2-1, c'est pas très honorable. Mais à un moment, il y a un événement au PFL et il y a Nate Diaz. Nate Diaz avec Cron Gracie. Cron Gracie qui est le fils de la légende Rickson. Ils sont au PFL et puis il y a le manager de Rabib, Ali Abdelaziz, qui a toujours tendance à mettre un peu d'huile sur le feu.
PFL qui s'appelait World Series of Fighting.
World Series of Fighting, qui interpelle Nate. Bagarre générale à 3 contre Rabib plus ses 15 amis daghestanais. Et on voit très nettement sur les images Nate mettre 3 baffes pleine poire à Rabib. Et c'est pour ça que Nate, à chaque fois, dit bah, Rabib, j'ai pas besoin d'affronter, j'ai déjà battu.
Bon, bah écoutez, si avec ça, on vous a pas donné envie d'être devant RMC Sport 1 dans la nuit de samedi à dimanche, pour le grand retour de Nate Diaz face au Britannique Leon Edwards, c'est bien, on aura pas réussi notre mission, avec le commentaire bien sûr Taylor Lapillus.
Également, on n'a pas parlé du combat.
Non, c'est ça.
ils écrasent tout avec leur personnalité.
Mais le combat, il a raison. En deux mots, franchement, c'est un combat qui est très dur pour Nate, parce que Nate a 36 ans, Edwards est très jeune et très puissant. Il est peut-être un petit peu... Pas, je trouve pas le mot poli, mais un petit peu voilà, c'est pas le combattant le plus flashy du roster.
Boring.
Mais il sait tout faire. Il sait tout faire.
Il est fort.
Et il est très fort.
Et c'est un vrai welter.
Il est énorme. T'as vu à la pesée, t'as l'impression qu'il est une KT au-dessus.
Il est numéro 3. Il est numéro 3 de la KT. Il a pas énormément combattu avec la, mais beaucoup ont été touchés avec la pandémie.
Comme Nate,
exactement. Et puis il reste, je crois, sur 8 victoires sur ses 9 derniers combats. 8 victoires.
La dernière défaite, c'est contre Kamaru Usman, le champion de la catégorie.
Usman, et il y a vraiment de nombreuses années. Donc, en effet, Nate est tout sauf favori. Après, c'est le numéro 3 de la KT. Donc, si jamais Nate réussit l'exploit et bat Leon Edwards, il se replace tout de suite comme un challenger possible, en tout cas. Mais on va pas développer là-dessus, mais il y a énormément de possibilités pour les frères Diaz. Un troisième combat pour Nate Diaz, un troisième combat contre McGregor. Bien entendu, tout le monde aimerait voir ça, peu importe leur résultat. Une revanche contre Jorge Masvidal pour le BMF, je pense que tout le monde achète aussi. Et même pour Nick Diaz, aller prendre par exemple Jorge Masvidal pour venger son frère qui a été battu pour le BMF. Il y a un storytelling.
Le combat que je veux voir pour Nick, parce que quand même, il a 37 ans, il a eu des problèmes. À un moment, il était un peu alcoolique aussi, on a oublié de le dire, mais il y a cette interview lunaire qu'il donne à Ariel Helwani après le combat de Nate contre Jorge, où tu vois qu'il est clairement, pas dans son assiette. Là, il va beaucoup mieux. Moi, le combat que je veux voir, c'est la revanche contre Carlos Condit. Écoute, ils sont battus pour la ceinture intérimaire quand GSP était blessé. Il y a encore des bases pour savoir qui a gagné ou qui n'a pas gagné ce combat. Condit est toujours actif, il cherche un combat. Franchement, Nick contre Carlos Condit, pour les fans hardcore de MMA, c'est un combat qui fait rêver.
Voilà pour ce grand rendez-vous de samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, bien sûr. Un mot également, parce qu'il y a une offre pour suivre ce combat et plein d'autres ce week-end.
Ouais, vous pouvez profiter, c'est une offre juste pour ce week-end, une offre qu'on appelle le Pass Combat, donc pour RMC Sport, la télévision, si vous voulez regarder ce pay-per-view en direct. Donc pour 7€, vous pouvez vous inscrire, vous allez sur le site RMC Sport, vous trouverez les liens quand vous tapez sur la télévision. Pour 7€, vous aurez accès à partir du samedi 10h midi, vous aurez accès jusqu'au dimanche soir. Non seulement au pay-per-view UFC 263 en direct, dans la nuit de samedi à dimanche, mais aussi à tous les replays, que ce soit en MMA avec l'UFC, le Bellator, le PFL, en boxe avec les soirées premières Boxing Champion, et même le football. Vous pourrez aller voir la finale de la Ligue des Champions ou les matchs de Ligue des Champions cette année. Voilà. Donc profitez de cette offre, c'est 7€ pendant un week-end, profitez-en.
Merci Alex, merci Joe, merci Taylor, c'était la dernière de la saison, on a fini très fort avec les frères Diaz, les Diaz Brothers.
Allez.
Et rendez-vous la saison prochaine. Bon été à tous, bye bye.
Allez.
RMC Fighters Club.
Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.